RMC Running,
Amin Mohamed.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. On est toujours en direct de Chamonix avec mon maître Yodu. Comment tu vas?
Salut à tous, salut Amine. Bah
ça
écoute,
ça roule. Épisode, hein, ça commence à
on est au 9e épisode, ouais, 9... mais ça fait un moment que je te supporte autant. Bravo.
Attention, il en reste 12 encore.
Bravo, mais t'inquiète, on se régale à chaque fois.
C'est
et clair. Je sens que celui-là va être pas mal aussi, on va bien rigoler.
Celui-là, il va t'intéresser. Attention, parce qu'on va parler du boom dans le milieu du trail. Comment ça se fait qu'en espèce de 10 ans, plus de deux fois plus de courses ont eu lieu, un nombre de participants qui explose, plus de femmes, plus de jeunes. Pourquoi les athlètes quittent leur discipline pour se mettre dans le trail? Et pour ça, on a un sacré plateau.
Exactement. On a convoqué les meilleurs.
C'est clair. Annelise Rousset, figure emblématique du trail. Comment tu vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Nickel. Candice Boisson, comment ça va?
Ça va super bien.
Et un ami historique de RMC Running, Dorian Louvé, comment ça va?
Salut, ça va très bien, merci.
Bah nickel, t'as des petits yeux toi, attention.
Ouais, c'est parce que je me réveille de la sieste pour vous les gars.
Ah, c'est beau, merci. Et puis tu cours vendredi. Hein.
Et il paraît, ouais.
Premier 100 miles. On va pas garder très très longtemps, mais en tout cas, merci d'être venu avec nous.
Avec plaisir.
Eh bien écoute, on va commencer. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est l'heure de parler trail running. Eh bien, je vais commencer avec Annelise Rousset. Merci d'être avec nous, figure emblématique, championne de la CCIC en 2014.
Oui, ça date un peu. Ça fait plaisir, je suis la vieille du plateau.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Tu vas être un peu notre porte-parole historique.
Je sais pas comment je dois le prendre.
Non, mais je vais te donner des chiffres.
Allez, encore. En
2025,
il y a 5900 courses qui se sont déroulées. Et puis, c'est 20% de plus qu'en 2024.
Sur le trail.
C'est absolument énorme.
20% de plus.
En 2014, il y avait très peu de courses par rapport à aujourd'hui. Comment tu as vu cette évolution-là, justement?
Clairement, ouais, ça a beaucoup. Enfin, il y a eu une explosion bien visible. Je pense quand même qu'il y a l'effet Covid, mine de rien,
ouais.
Qui est non
comme
négligeable parce que ça a vraiment explosé quand même post-2020-2021. Après, bah, y a de plus en plus d'organisations, ça c'est sûr. De plus en plus de participants, maintenant c'est saturé en peu de temps et les inscriptions doivent se faire vraiment dans les quelques minutes.
Ah, il faut être actif sur le quand les dossards sortent. Hein.
C'est ça. Et comment l'expliquer? Ben oui, clairement, je pense qu'il y a un effet un peu sociétal avec cette envie d'outdoor et d'effort post-Covid qui, je pense, est clairement bien identifié. Et puis, ben, il y a aussi ce côté médiatisation. Vous y êtes quand même
c'est
pour
vrai.
Quelque chose, j'imagine.
Ah, c'est grâce à RMC Running. Ouais. Les chiffres.
Mais ça a clairement changé en 10 ans. On parlait pas de trail, on n'avait absolument pas d'image de ces belles montagnes, il n'y avait pas du tout de support visuel de tout ça, et je pense que clairement c'est aussi beaucoup ce qui va participer à cet essor.
Puis en l'espace de 10 ans, on a un âge moyen également qui s'est un peu réduit, on est passé de 45 à 42 ans, on a de plus en plus de femmes également sur ces courses. Ça aussi, tu l'as constaté pardon, dans ces épreuves-là?
Oui, et d'autant plus des jeunes qui se mettent sur des longues distances. C'est vrai qu'avant, longtemps, on disait marathon, c'était un sport d'expérience qui nécessitait l'endurance, donc qui était plutôt réservé à des personnes plus âgées. Et c'est vrai que ça, ce rapport-là a complètement changé. Les jeunes vont de plus en plus sur des longues distances. On a de plus en plus de jeunes qui se mettent même sur des ultras. Et puis ça, c'est l'entraînement s'est structuré, donc oui, ça attire de plus en plus de jeunes, au-delà du côté médiatique et du côté qui donne envie aux jeunes d'aller en montagne.
Vu la moyenne d'âge, Dorian, je peux t'appeler le jeune. Ça va?
Ça me va.
Ça te va? Pourquoi tu te mets dans le trail alors? Justement, qu'est-ce qui te plaît dedans?
Non, mais en fait, je pense que tout simplement, le trail, il y a encore quelques années, c'était un sport qui était méconnu. Moi qui viens de l'athlétisme pur et dur et Johan va pas me contredire, pour nous, ceux qui faisaient du trail, c'était ceux qui savaient pas courir, ceux qui voulaient marcher avec des bâtons en montagne. Et pour nous, enfin, c'est vrai, ça faisait
c'était
pas.
C'était des guides de haute montagne, on les voyait comme des montagnards. Ouais.
Ça résonnait pas comme sport, quoi. C'était vraiment un peu ceux qui avaient trop mal pour courir sur le bitume ou sur piste et ils allaient un peu dans les sentiers. Vraiment, c'est un peu l'image, j'exagère, mais qu'on en avait. Et aujourd'hui, on voit que c'est absolument plus du tout ça, que c'est beaucoup plus compétitif qu'avant, que les marques s'y intéressent aussi, que le matériel a aussi évolué, et que bah, peut-être que le trail d'avant n'est plus celui d'aujourd'hui, et que ça attire beaucoup plus de monde, tout simplement. Et moi, le premier, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, je ne m'imaginais pas forcément sur les sentiers. Et là, je prends vraiment un plaisir à découvrir ce sport, parce que voilà, pour moi, je suis quand même nouveau dans ce sport, et j'ai envie de continuer à apprendre pour... pour progresser et pour essayer d'aller chercher des émotions que tu retrouves pas forcément ni sur la piste ni sur la route.
Qu'est-ce qui plaît dans le trail à ton avis? C'est cette reconnexion avec la nature. On parlait beaucoup d'esprit trail à l'origine.
Ouais, ce qui me plaît aussi, c'est la différence de l'effort. Tu vois, l'effort.
Il est pas linéaire.
Exactement. Tu vois, ça me fait un peu penser plus aux crosses. Mm. Et moi, j'adorais les crosses où en fait, tu te fixes pas vraiment un chrono, une allure. C'est vraiment.
C'est ça, toi qui connais bien les crosses aussi.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment, tu vois, la montée, la relance, la descente, un peu la technicité. Forcément, tu cours dans des paysages qui sont quand même incroyable, donc forcément ça change aussi de la route. Voilà, il y a tellement de paramètres à prendre en compte sur le trail. Il y a aussi tellement de terrains différents, les terrains techniques comme Anne-Lise les adore, les terrains beaucoup moins techniques comme moi je préfère.
Anne-Lise, record woman au JR20 justement,
ouais.
Qui est très technique.
Très technique, ouais.
Très technique.
Pour l'anecdote, on a fait un petit stage un peu ensemble avec Anne-Lise il y a deux ans, et on n'était pas trop d'accord sur. Sur les terrains, il y a des moments où elle adorait et moi je gueulais un peu, j'étais vénère, je dis c'est quoi ça, c'est pas de la course.
C'était beau,
mais parce que c'était plein de cailloux, voilà, c'est ça, salade de cailloux.
Et toi, il fallait du bitume, toi.
Moi, faut que je puisse quand même courir un petit peu, c'est là où je prends le plus de plaisir aujourd'hui.
On le rappelle, t'as fait 7 marathons en l'espace d'un an dans une opération qu'on a accompagnée, Miles of Discovery,
exact.
Record du monde à la clé, encore bravo. Et puis, 7 mois plus tard, on te retrouve sur un 100 miles, qu'est-ce qui se passe?
Alors c'est un peu plus que 7 mois au final, quand même, c'est 9 mois heureusement, parce qu'entre temps je suis quand même allé faire une émission sur TF1 là, qui m'a un peu plombé ma saison, je te mens pas, mais en vrai c'était une volonté que j'avais dès l'année dernière, c'est ça en fait, c'est se lancer des nouveaux défis. Et moi après Miles of Discovery, je t'avoue que je me suis dit comment je vais rebondir après une année comme ça, remplie autant d'émotions, c'était quelque chose d'incroyable et unique. Et je me dis, mais l'année prochaine, ça va être compliqué. Et en vrai, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait rêver aujourd'hui? J'ai envie de passer sur du long. Je trouve que le 100 miles, l'ultra trail, a plus le côté aussi aventure humaine que tu retrouves pas forcément sur des formats de 40 km, que j'affectionne aussi. Mais j'avais besoin d'aller retrouver ça, d'aller chercher ça. Et dès l'année dernière, en fait, je savais que je voulais faire l'UTMB. Bon, voilà. Ah. Je suis au départ.
Mais
j'assume totalement. Je suis excité. Je viens prendre un maximum d'expérience. J'ai envie sur les années futures de continuer à aller m'amuser dessus. Et voilà, on verra ce que ça donne dans quelques jours.
Dans 3 jours, à peine.
Ouais, je suis prêt à souffrir.
Magnifique. Autre athlète qui a totalement changé de braquet également, Candice Boisson.
Oui.
Ceinture noire de judo,
oui.
Ancienne championne de France de wakeboard.
Du monde
aussi.
Ouais.
Et là.
Et ben, moi,
marathon des sables en 2026,
oui.
Rien que ça.
C'est ça. Et ben, j'ai un peu commencé la course à pied avec toi, Dodo.
Ouais.
Parce que en fait, j'avais en tête, je m'étais dit un jour je ferai un marathon.
Ouais.
Et c'est Dodo qui m'a accompagné dans le coaching sur mon premier marathon, qui était le marathon pour tous.
Ah oui, pas le plus facile en plus.
Non, pas le plus facile. Mais du coup, j'ai découvert un peu la course à pied via ce marathon-là. Et puis, un peu grâce au réseau, je voyais le marathon des sables qui me faisait rêver. Mais je me sentais pas du tout capable de faire le Legendary. Donc j'ai commencé par le
half.
Le 120, ouais. Et en fait, sur place, j'ai adoré. Je m'étais dit, un jour, je ferai le Legendary. Et en fait, finalement, ça s'est. Même pas un an après le half, je me suis lancée sur le Legendary. Et du coup, je l'ai fait en avril. Et j'ai adoré cette expérience. Ouais.
Qu'est-ce qui te plaît dans le trail, l'ultra distance? Ça n'a rien à voir quand on pense au judo. On pense à des actions qui se jouent sur des très courtes fractions. Et là, tu pars sur des heures et des heures d'efforts. Le marathon des sables, c'est une petite semaine où tu commences à courir et tu finis en fin de semaine quasiment.
Justement, j'adore le côté dépassement de soi et qui est très différent, même en wake, c'est plutôt des efforts courts où c'est intensif. Mmh. Et là, c'est vraiment des heures et des heures. Enfin, j'adore, tu te déconnectes, tu n'as pas ton téléphone, tu es dans tes pensées. C'est un peu comme une longue thérapie où tu as le temps de penser à plein de choses. Et c'est ça que je trouve vraiment génial, quoi. Et puis ce qui est chouette aussi, parce que du coup j'étais au niveau en wakeboard et en judo, et c'est que là je suis arrivée en tant que débutante avec mes propres objectifs. Et c'est ce que je trouve chouette en trail, c'est que tu sois élite ou débutant, en fait chacun, je pense, a sa dose de bonheur
bien
à l'arrivée. Parce que soit tu te dis je vais battre mon record, soit je veux juste terminer, soit je cherche un podium. Mais dans tous les cas, t'es content à l'arrivée, quoi. Donc je trouve ça chouette.
C'est fou ça, ces profils différents qui arrivent dans les trails. Puis là aussi on a un marathonien qui va commencer l'année prochaine à faire du trail. Toi aussi ça t'attire? Qu'est-ce qui t'anime justement dans ce trail là?
Après pour revenir à tout à l'heure sur tous les changements qu'on a vu évoluer ces dernières années, c'est vrai que même sur marathon on a vu des nouvelles générations venir très vite sur la distance. C'est-à-dire que moi, quand Dorian parle d'une époque, à mon époque, on montait sur marathon à 30 ans. C'est-à-dire qu'avant 30 ans, tu restais sur la piste, tu faisais du 1500, du 5000, tu faisais de la vitesse, tu faisais du 10000 et tu montais sur marathon à 30 ans, voire même plus, 32, 33. Tu finissais ta carrière comme un dinosaure sur la route tranquillement parce que tu perdais en vitesse, tu gagnais en endurance, en expérience et tout ça. Et depuis quelques années, on s'aperçoit que tu as des Félix Bourg qui arrivaient à 23 ans, des Valentin Gondouin, des Mehdi Frère, des Akshari qui sont arrivés tous à 23, 24 ans sur marathon.
Mais Mehdi Frère qui s'est carrément spécialisé sur le marathon.
Sur marathon, très vite, à 23 ans, 24 ans, sans passer par les cases 5 et 10. Et tout de suite, ils sont montés sur des grandes distances. Il y a eu cette appétence pour le long. Et c'est un peu vrai aussi sur le trail où aujourd'hui, les jeunes, bah, ils basculent direct. Ils veulent aller. Alors attention, hein, c'est un risque. C'est aussi une stratégie qui est totalement différente de carrière, et c'est vrai que même pour le côté populaire, les gens aujourd'hui, si tu leur dis j'ai fait un trail de 40, ils te disent ouais, c'est un peu banalisé aujourd'hui. Si tu fais pas un ultra dans l'esprit de certains, c'est pas.
Bah, tout comme
c'est pas un vrai grand quoi. Ouais, c'est comme sur un marathon, tu peux dire je fais 29 au 10K, mais si t'as pas jamais fait de marathon au repas de famille, ton oncle il va te dire mais t'as déjà fait un marathon. Tu vois, moi j'ai Dédé au bureau et il a fait 4h12. Et oui, tu le connais pas.
Moi je fais de la piste également, et puis à chaque fois on me dit mais quand est-ce que tu vas sur marathon.
Voilà, c'est
un peu le truc absolu.
C'est des trucs mythiques et l'ultra en fait partie.
Anis Rousset qui connaît très très bien les ultras. Comme on le disait, alors tout à l'heure Dorian disait que c'était un peu les vieux briscards, les gars du trail. Comment tu le vivais à l'époque, et comment tu disais, ok, comment... Ah, pardon, je vais la refaire. À l'époque, on disait que les ultra-trailers, c'était un peu les vieux briscards. Tu sais, les personnes qui arrivaient sur la route, ils couraient 15-20 heures, notamment pour la Jag ou ici, le 100 miles, ici à l'UTMB. Comment tu vivais cette appréhension-là, cette image que vous aviez?
Alors, moi, j'étais pas aussi sur les longues distances que ça, en fait, quand j'ai commencé. Je faisais, enfin, voilà, j'étais pas forcément non plus. Enfin, je faisais partie des jeunes, mais j'ai pas non plus commencé très très tôt. Je commençais à 25 ans et j'étais pas la plus jeune des départs. Mais oui, effectivement, les ultra trailers, c'était hormis Kylian qui a révolutionné clairement la vision de l'ultra trail. C'était des anciens, en fait. Alors, soit des raiders qui se remettaient à l'ultra trail, mais des ultra endurants, en fait. Et oui, c'est clairement, la population a clairement rajeuni.
Faut un côté aventurier un peu, non, pour faire de l'ultra trail. Vous, participant de Koh-Lanta, ex-participant de Koh-Lanta, il faut ce côté aventurier où on va dans la nature, on sait pas où on part. Des fois, il y a un deux virages, on va à droite, on va à gauche, et on sait pas où aller. C'est un peu ça l'idée, Dorian.
Je pense pas qu'il ait forcément besoin d'être un grand aventurier pour faire de l'ultra trail, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aimer, un peu, je pense, être solitaire à certains moments.
Il faut aimer se
dépasser, il faut aimer souffrir, il faut avoir envie de souffrir pour derrière en trouver de la satisfaction. Mais c'est sûr que c'est des compétences, c'est une volonté quand même. Quand tu commences à arriver sur l'ultra, c'est énervé, hein. C'est énervé, il faut savoir pourquoi tu y vas, en fait. tu fais pas ça en vrai. Ceux qui se disent je fais ça juste comme ça pour voir, en général,
ils ont vu. Au 40e, ils ont vu.
Ils ont vu à mi-course et puis ils reviennent plus. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut peut-être aussi un peu d'expérience. Mais voilà, le trail, c'est pas l'ultra trail, je veux dire.
Ouais, bien sûr.
Aujourd'hui, on le voit.
Il y a toutes les distances.
C'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'ultra trail, ça a un peu. C'est un peu similaire au marathon, on a l'impression que c'est la distance reine, etc. Pour autant, quand t'es vraiment un petit peu dans le milieu, tu te rends compte qu'il y a plein de distances inférieures où ça court comme des Mongols, et où il y a autant de compètes et de niveaux, et peut-être même plus de densité, puisque plus abordable.
Bien
donc voilà, faut parler du trail sans parler que de l'ultra trail, parce qu'en vrai, l'ultra trail, c'est quand même
c'est spécifique.
Une petite fenêtre dans le monde du trail aujourd'hui.
J'ai juste une petite question, parce que du coup je suis bébé traileuse, mais et du coup je sais même pas à partir de quelle distance c'est considéré comme un ultra.
Alors dis-nous, qu'est-ce que tu veux faire? On va te dire si t'es une vraie ou pas.
En fait, je sais même pas. Je dirais, je sais peut-être au-dessus de 60 ou 80.
Au-delà du format 50K, c'est ça?
Ouais, 80. Mais c'est 80.
80.
Donc à partir de 80, c'est un ultra. Ok, d'accord. Je ne savais pas.
Ça te donne envie?
Bah oui.
De toute façon, on l'a déjà fait.
Non, mais en fait, dans ma tête, alors je veux voir, mais j'aimerais bien un jour, pourquoi pas l'année prochaine, faire le grand raid.
Ah.
Ouais, c'est un petit objectif que je me mets, que j'aimerais bien après.
Ah oui.
Enfin, un gros objectif.
Ah ouais, parce que.
Mais voilà, mais j'aime l'aventure.
Là, c'est le côté aventurier, ouais.
C'est ça.
Pourquoi tu te lances au final, Dorian? On sait qu'il y a plusieurs étapes avant de passer à un 100 miles. Là, tu arrives sur le 100 miles de l'UTMB. On sait que c'est une course mythique, peut-être la plus grande course du trail trail au monde. C'est ce côté mythique qui t'a attiré?
Ouais, alors pour l'histoire, moi j'ai déjà fait quand même la diagonale des fous. Ouais, mais c'était mais... un premier trail, mais j'arrivais pas du tout.
Tu t'es dit plus jamais,
là,
non
là, c'était... Oui, mais comme quand je fais un marathon. Hein. C'était le... Tu vois, vraiment le côté aventure, découverte qui me plaisait. Il faut savoir quand même que, pour en revenir juste à Koh-Lanta, c'est une émission... Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus dur que Koh-Lanta. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où j'ai fait cette émission, je sais que tout finira par passer parce qu'il n'y aura rien de plus dur, plus difficile que Koh-Lanta. Et pour autant, t'as envie de retrouver un peu ces sensations de difficulté où tu te dis je vais pas y arriver, j'ai plus envie. Ouais. Et aujourd'hui, à part dans Koh-Lanta et un peu à la Diagonale des Fous, dans les différentes aventures que je me suis lancé, j'ai pas retrouvé ce moment où je chiale et je me dis vas-y, je vais abandonner. Mais en fait, pas du tout, je vais pas abandonner. Continue, marche, avance et t'inquiète, le ciel est un peu plus bleu devant, tu vois, et c'est difficile. Et j'ai besoin aujourd'hui de retrouver ça. Vraiment, c'est moi, c'est Koh-Lanta qui m'a un peu changé de regard sur cette difficulté-là, qu'aujourd'hui, j'ai envie de retrouver, et je la retrouve sur des ultras. Donc, pourquoi l'UTMB? Effectivement, parce que pour moi, c'est l'ultra le plus populaire, le plus connu, et en plus, c'est quand même un parcours qui me convient relativement mieux que la Diagonale Bien des sûr. Fous, parce que plus roulant, voilà, j'ai fait la reconnaissance, etc., et je prends de plus en plus de plaisir sur le long, je le vois aussi à l'entraînement. Donc, bah, voilà, au final, j'arrive... de plus en plus à la moyenne d'âge qui se met au trail. Et les distances s'allongent peut-être aussi un peu.
Dans le prolongement de cette même question, Candice, pourquoi tu cours? C'est une question qu'on pose assez souvent.
Pourquoi je cours?
Pourquoi tu cours?
En trail, tu veux en dire?
En trail, oui. De manière globale.
Et ben, c'était un peu pour vraiment. C'est marrant ce que tu viens de dire, que tu recherchais un peu ce côté où à un moment donné, tu dis je vais abandonner et finalement non. Ben, c'est un peu pour ça. Étonnamment, j'ai envie d'avoir ce moment où je suis à bout. Et finalement, j'y arrive quand même, et pour gagner confiance ou quoi. Et finalement, c'est pour ça que je me suis lancée sur le marathon des sables Legendary. Et finalement, je me suis tellement bien préparée qu'à aucun moment, j'ai eu ce moment où je me suis dit, bah, je vais abandonner. Donc étonnamment, j'ai envie de refaire plusieurs trails et de voir jusqu'où je peux aller, sortir de ma zone de confort et tester mes limites, quoi.
C'est un peu le point commun qu'on a vu cette semaine. Tu sais, à chacun des parcours, il y avait cette émotion recherchée.
Ah oui, l'émotion, ouais.
Et le trail, l'ultra trail, notamment via les longues distances, permet d'avoir ce boom d'émotions à la ligne d'arrivée.
Bah, plus tu galères, c'est comme un marathon, c'est toujours, t'as beaucoup plus d'émotions après un marathon qu'après un semi, parce que tu passes par des moments de down et des moments d'euphorie assez dingues. Et l'ultra, bah, c'est décuplé par X, parce que tu passes encore plus de temps. Donc effectivement, c'est ces émotions-là. C'est quand t'as ces 100 mètres que tu vas traverser la ligne, on l'a vu avec la vidéo d'Amandine Petit lundi qui a fait le buzz, qui était hyper émouvante, parce que tu sens que Lana, ça fait 9 heures, qu'elle veut voir cette ligne et qu'elle en chie et qu'elle se dit mais... Allez, et tu t'en raccroches, et une fois que tu y es, tu te rappelles de par où t'es passé, et effectivement t'as les émotions qui remontent, ouais, c'est assez dingue. Mais c'est pareil sur marathon, hein. Mettez-vous sur la ligne d'un marathon, nombre de personnes qui pleurent, t'en as une sur deux. Hein.
C'est clair. Annelise, toi qui as beaucoup d'expérience, quand on parle avec Dorian qui s'apprête à faire son premier UTMB ici en 100 miles.
Dis-lui l'erreur à pas faire déjà. Parce que...
Faut pas faire, exactement.
Venir faire un podcast 48 heures avant. Ah ouais, pars devant, tiens. Ouais, ouais. Premier kill,
les erreurs à pas faire. Ouais, pars pas trop vite. Même si je suis pas la meilleure, la plus raisonnable non plus sur les départs. Couvre-toi quand même, ouais. Hein, mange bien. N'aie pas peur des pyramides calcaires et des cailloux, mais c'est pas long.
Je sais,
mais c'est le plus beau. Je te promets, c'est le plus beau. Non, voilà,
c'est
il faut.
C'est pas beau si j'y vais de nuit.
Si tu vas de nuit, ça sera pas beau. Ouais.
J'y passe pleine nuit, c'est pas beau du tout, ça sert à rien.
C'est vrai. Mais voilà, gère ton effort. Je pense que tu es capable de. Voilà, tu sais aussi gérer les efforts avec tes 7 marathons. Tu les as quand même un petit peu gérés aussi, et puis et t'emballes pas trop non plus. Et après, par contre, quand ça déroule, c'est que tu es capable de bien dérouler, donc tu vas te faire plaisir.
Ouais, mais en plus, vraiment, j'arrive sur ce 100 miles avec vraiment énormément d'humilité. Genre, je me dis, c'est full découverte. La prépa, elle a été bonne, mais seulement sur le temps qui m'a été donné pour me préparer. Parce que, encore une fois, l'année a été un peu difficile. Et peu importe le parcours, tu ressors jamais indemne d'un tournage de Koh-Lanta. Et voilà, du coup, ça m'enlève presque toute cette pression. Et de me dire que là, bah, c'est un 100 miles que je vais découvrir. J'ai vraiment envie de le savourer, donc j'ai vraiment pas prévu de partir trop vite. Maintenant, il y a des questions que je me pose, tu vois. En fait, je me dis que tu partes un peu vite ou pas vite,
tu vas morfler à
90 bornes, en fait, t'as plus de jambes, tu vois. Donc j'ai du mal à trouver pour le moment
l'équilibre.
Ouais, donc je pense que je vais faire un peu à la sensation, et puis voilà, ça servira d'expérience.
Ce qui a aussi permis le trail de progresser et de se médiatiser, c'est aussi votre travail, la création de contenu. À quel point, justement, votre part a été importante dans l'explosion du trail, à votre avis? Quand je dis votre part, c'est vraiment le corps de métier des créateurs de contenu, Dorian ou Candice.
Ouais, je pense que ça, ça a forcément son importance sur la découverte au grand public. Aujourd'hui, tout à l'heure, on le disait, mais après Covid, ça a quand même explosé, mais le running dans l'ensemble, et notamment sur les réseaux sociaux, et forcément, bah, c'est un phénomène sociétal. Hein. Si ça explose sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de monde qui le voit, et il y a de plus en plus de monde qui se disent... Pourquoi pas moi, aller chercher les émotions à l'arrivée d'un marathon, d'un 10 km, tu vois des gens arriver, pleurer, tu te dis ça doit être sympa ce qu'ils ressentent. Donc aujourd'hui, on voit toutes ces personnalités, ces créateurs de contenu raconter ces histoires-là. Alors, faut quand même pas oublier que ça reste aussi des humains. Moi, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que ce créateur de contenu, cette personnalité, viendrait si elle avait pas de caméra avec elle, par exemple. Il faut savoir quand même que ces humains-là, parce qu'on a tendance à les mettre que dans des cases, ils s'entraînent aussi, et quand ils s'entraînent, ils sont pas toujours suivis par des caméras. Donc c'est vrai que t'as une belle ligne d'arrivée et c'est beau, mais enfin, faut savoir aussi par quoi tu es passé. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça sert surtout à professionnaliser le sport. Aujourd'hui, on voit
t'as
les budgets.
T'as pu quitter ton métier carrément.
Comment ?
T'as pu quitter ton métier aussi grâce à la création de contenu.
Totalement. Et puis, même pour les élites qui vont maintenant courir devant. Enfin, on voit, il y a quand même beaucoup plus de marques qui sont aujourd'hui engagées sur le trail, donc plus de budget, donc plus de professionnalisation, donc le niveau augmente aussi. Donc voilà, je pense que. D'un point de vue, on va dire, participation, le nombre de gens qui se mettent à courir et au trail, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Hein. Voilà, faut quand même. Et encore une fois, on a l'impression que c'est tout le monde, mais c'est parce qu'on est dans un microcosme où autour de nous, tout le monde court. Tu sais, c'est pareil, moi j'ai l'impression que dans les gens que je connais, il y a une personne sur deux qui a fait un marathon. Pas du tout, sur la population mondiale, les gens qui ont fait un marathon. C'est tout petit. Donc voilà, il faut qu'on arrive à prendre du recul, à voir ce que ça donne. Et surtout, bah, moi je pense que ça met les plus jeunes et plein de gens qui sont sédentaires au sport. Donc moi je vois vraiment ça d'un bon œil. Et bon, vous allez me dire que je suis pas la meilleure personne pour parler de ça puisque je fais partie de ces gens-là. Mais j'aime bien débattre en tout cas de ce sujet-là parce que je pense que ça peut être fait très intelligent et intelligemment. Et voilà. Candice, toi, t'es arrivé là-dessus aussi en voyant tout ça, non ?
Ouais, et moi je suis totalement d'accord avec toi. Ce que je trouve. Intéressant, c'est pas juste de mettre en avant des athlètes, enfin des influenceurs comme nous qui arrivons sur une course sans s'être préparé. Enfin, je pense que toi comme moi, on montre justement qu'il faut de la préparation, il faut de la récupération. Et moi, pour être, comme je disais, le bébé trailleuse là, un
à
peu
côté
du
de...
groupe, je vois le nombre de personnes qui me disent « Ah bah je me suis inscrite à un 10 km grâce à toi ». Et en fait, c'est des personnes qui de base n'auraient pas forcément envie de basket et là qui se disent « Bah attends, elle a commencé au début, elle faisait pas du tout de course à pied et là elle se met à faire des 270 km, bah pourquoi pas moi ? Et au final je trouve que c'est quelque chose d'hyper positif de motiver des gens à sortir de leur canapé à se mettre au sport quoi.
Ouais, on peut être influencé en tout genre, toi tu disais peut-être mis à la longue distance via Laure Manoudou qui a fait ses premiers ultra trails notamment, c'est comme ça que tu t'es mis ?
C'est ça en fait, j'avais vu Laure Manoudou faire le MDS et je m'étais dit bah un jour ça me donne trop envie, j'aimerais le faire. Et là, mon conjoint qui a fait la Diagonale des Fous, j'ai vu son film, je l'ai vu galérer, je me dis, c'est vrai, j'ai envie de le faire un jour. Donc c'est pour ça, c'est un peu ça qui me donne envie de me lancer des nouvelles aventures. Et je trouve ça, en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est tout le processus.
Bien sûr.
Et puis, enfin, c'est ça que je trouve trop bien, encore une fois. Moi, mes objectifs, c'est pas, je ferai certainement jamais de podium de ma vie, mais c'est de me dire, allez, je me lance sur l'aventure et je la vis. Et je me prépare pour, et enfin, je trouve ça vraiment génial. Quoi.
On parlait de l'explosion du nombre de femmes dans ces épreuves. On a reçu Nouchka Diet il y a deux jours, ici, qui a fait la grande traversée des Alpes, plus de 600 km. Et au final, elle nous disait qu'elle a reçu énormément de messages de femmes qui disaient être inspirées par son parcours. Et si on voit ces chiffres qui augmentent, c'est aussi, je pense, grâce à votre travail, j'imagine.
C'est pas que notre travail. Hein. À Nice, tout pareil, hein. Tous les défis qu'elle réalise, etc. Alors, je sais pas comment tu te...
Non, mais...
Dans quelle position on
est tous influenceurs, créateurs de contenu à notre
quelle position, dans quelle position on se retrouve le mieux et qu'est-ce qu'on est vraiment, parce qu'à un moment donné aujourd'hui la communication sur les réseaux elle fait partie un peu du job aussi pour les élites et les histoires qu'il raconte, le film d'analyse, etc. Les records, bah en fait c'est super inspirant. Et aujourd'hui on voit quand même beaucoup de femmes aussi tenter des records, réussir, être mises en avant. Et c'est pour ça que je pense que bah du coup ça donne du crédit à ce sport, ça donne du crédit au sport féminin. Et derrière bah les femmes elles se disent bah ok moi aussi en fait. Donc je pense qu'en fait on est tous indirectement influenceurs à notre façon, tu vois. Et j'imagine que un père de famille quand il va courir, peut-être qu'il influence ses neveux, ses nièces, ses enfants pour plus tard, parce qu'ils se disent bah moi aussi je veux vivre ça. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a moi je trouve que c'est un peu un faux débat et on se cache un petit peu derrière les influenceurs, ils prennent le dossard des autres alors que c'est pas des vrais coureurs, etc. Bah moi les gens que je côtoie qui créent du contenu et qui font les courses, en fait ils sont quand même contents d'aller s'entraîner. Et en fait je pense pas qu'ils piquent le dossard aux autres.
Il y a un fabuleux documentaire justement qui est sorti sur ton record au jardin sur France Télé. Fabuleux documentaire, je le dis personnellement parce que j'ai beaucoup apprécié, on est vraiment très touchés. On te voit avec ta famille, t'as été jeune maman et en même temps tu cours vétérinaire également en temps plein. Tu t'es senti considéré, est-ce que tu t'es senti aussi influencé, influençable de par ta profession et de par tes records justement que t'as mis en avant?
En fait, ça a changé ma vie. En fait, clairement, tout a basculé avec le GR20, avec la médiatisation qu'il y a derrière. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, dans le sens où c'est bénéfique pour tout le monde, le fait d'avoir ce côté influence. Enfin, en tout cas, qu'on influence ou qu'on soit influencé par cet engouement pour le trail, parce que ça pousse les gens à faire du sport. Deux, ça pousse aussi le niveau, parce qu'on parle de performance, et s'il y a autant de jeunes qui se mettent dans ces épreuves, que ce soit sur tous les formats de trail, et qui s'entraînent autant et qui performent autant, c'est aussi grâce à cet engouement et cette mise en avant de notre sport. Après, voilà, peut-être qu'il y aura saturation, peut-être qu'il y aura des conséquences, des dommages collatéraux qu'on aura avec cet engouement pour notre discipline, mais aujourd'hui il est bénéfique pour tout le monde, à la fois pour que chacun puisse se mettre au sport et goûter à la montagne, découvrir la montagne, et puis pour le côté aussi performance et les athlètes pros qui derrière vont bénéficier de plus de meilleurs contrats, de plus de cadres pour pouvoir performer. Et c'est gagnant-gagnant aujourd'hui pour tout le monde, en tout cas, je pense.
On parle beaucoup de préservation de l'environnement également, qui s'accompagne de ce boom. C'est un peu le problème quand on a
l'impact sur l'environnement. Surtout ici à l'UTMB, la semaine.
C'est sûr qu'on est on évolue en milieu fragile, dans des milieux qu'il faut préserver, et c'est aussi ce pourquoi
sur la fréquentation,
il va falloir certainement en tout cas œuvrer pour ça. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites de la part des organisateurs, mais il y aura certainement un effort encore à faire pour les organisations futures. Ouais,
bien sûr. D'ailleurs, l'UTMB a mis en place des UTMB Mobility justement pour permettre aux accompagnateurs de prendre ces bus et d'aller au point de ravitaillement et éviter que les gens prennent des voitures personnelles et envahissent entre guillemets les vallées de Chamonix. Ça fait partie des mesures écologiques qui ont été mises en avant. Ça aussi, il faut faire attention.
C'est super important. Ils mettent aussi le déplacement, la façon dont tu viens sur la compétition. Il y a l'UTMB, mais il y a beaucoup de courses qui prennent conscience de l'environnement écologique. On l'a vu avec le marathon de Paris qui a enlevé les bouteilles en plastique et avec des ravitaux au robinet. Enfin, il y a toutes les manifestations qui drainent énormément de monde aujourd'hui, avec des courses avec 20, 30, 40, 50, 60 000 coureurs. Bah, t'es obligé de faire attention à l'environnement parce que ça peut très vite basculer. Donc ça, c'est le côté un peu négatif de cette explosion du trail. Effectivement, ça tire tout le monde vers le haut, mais il y a un espace à préserver. Le trail, c'est dans la nature, donc forcément il faut faire attention. Tu peux pas lâcher tout le monde. Il y a un côté aussi danger, c'est-à-dire que c'est quand même un sport dangereux malgré tout, hein. De rien, quand t'as 2h du mat, tu seras par moins de 3 degrés. C'est pas génial. C'est pas non plus, tout le monde n'est pas capable de vivre, à mon avis, des moments difficiles comme ça. Donc sur même chez les coureurs, il faut faire attention. Ouais.
Par contre, moi, tu vois, j'ai fait la MCC lundi. J'étais dans les 600 premiers, donc il y avait 600 personnes devant moi. J'ai pas vu un papier par terre.
Ouais, ça c'est bien. Personne a jeté son petit ravito.
Il y a une personne qui a fait tomber son gel, mais parce qu'il l'a fait tomber, je lui ai redonné. Mais sinon, il y a eu
c'est
zéro
toi.
Papier, tu vois.
Non, bravo.
Et je trouve ça chouette.
Ah, c'est la base.
Oui, et puis je pense qu'aussi les personnes qui se mettent au trail aiment la nature. Et
tu te mets pas au trail si t'aimes pas la nature. Hein. Tu restes pas. Tu viens, tu découvres et tu te rends compte si t'aimes pas la nature, si t'es pas.
Oui, j'imagine.
Dorian, tu voulais parler.
Puis, Fred, je pense que t'aimes aussi la découvrir parce que tout le monde n'est pas montagnard, mais c'est pas parce que t'es pas montagnard que t'as pas le droit de faire du trail.
Ah bah, vu le nombre de Parisiens qu'il y a à l'UTMB.
Parce que voilà, c'est vrai que c'est quand même agréable et. Effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, il faut faire attention aux dérives et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a quand même des places limitées sur les courses. Je pense que les courses ici à Chamonix, tu peux faire x5
x5, t'es gentil.
C'est pas possible et c'est pour ça que ça crée aussi beaucoup de frustration chez beaucoup de personnes qui peuvent pas avoir les dossards. Mais justement, je pense que les courses et les gens aujourd'hui prennent conscience quand même de tout ça et bah voilà, essayent de faire la part des choses et de trouver le juste milieu entre ok, c'est bien de courir, c'est génial, mais effectivement faut aussi préserver l'environnement et faut faire attention à tout ça.
D'où ces petits remous dont on a parlé sur des personnes qui diraient que les influenceurs prennent des dossards de personnes qui sont en liste d'attente et qui essaient d'avoir ces dossards, mais au final est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, parce que évidemment les créateurs de contenu mettent une exposition assez particulièrement forte sur ces événements.
C'est de la frustration en vrai, et je comprends, c'est juste que c'est des gens qui disent bah en fait pourquoi il a le dossard et pas moi. En fait, c'est tout simplement, mais c'est combien? C'est 1 ou 2%?
2%.
Voilà, 2% donc, sur une course. Vrai, et ces dossards-là, si tu les prends pas, ils sont pas remis en vente pour autant. Donc, c'est juste que derrière, après, on va accorder de la visibilité à cette personnalité qui finit 872e de la course. Et voilà, les gens qui vont être un peu frustrés vont dire bah, en fait, on s'en fout, pourquoi lui? Mais bah, parce que justement, tu mets en avant cette image du trail qui est en train de. Ouais, devenir quand même omniprésente, je trouve, dans le monde de la course à pied. Je trouve ça cool.
Anise, toi qui es un peu une historique dans ce sport-là, t'as vu l'arrivée de
Dinosaure, tu peux le dire.
Non, il a dit, ça fait deux fois qu'il tourne autour. Ça fait deux fois que tu veux le dire, ouais, dis-le.
Figure emblématique, je préfère dire ça comme ça. Non, mais t'as vu l'arrivée de ces créateurs de contenu en 2014. Bon, il n'y en avait pas vraiment. Quelle était ta première approche? Il y avait Facebook, c'est vrai. Il y avait les posts Facebook. Sur les murs, on écrivait sur les murs.
Ouais, sur les murs, ouais. Les Skyblog.
Comment t'as vu l'arrivée de ces athlètes-là et quelle était ta première appréhension vis-à-vis d'eux? Qui restent des sportifs à part entière en plus parce que Dorian qui perd.
Tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier aussi, tu vois. Je veux dire, c'est comme dans chaque milieu. Je veux dire, tu peux pas mettre. C'est dire quoi, créateur de contenu, influenceur, c'est quoi? C'est à partir de combien d'abonnés? Est-ce qu'à un moment donné, si t'as un tel niveau, tu passes plus sportif que créateur de contenu? Enfin, je veux dire, il y a de tout. Il y a des gens qui créent du bon contenu et d'autres beaucoup moins. Et voilà, il y en a partout.
Non, mais je pense que la limite, elle est quand le créateur de contenu en question ne respecte pas les valeurs du sport
bien sûr.
En question. Et évidemment, quand
il y en a.
Ouais, il y en a. Et quand on a l'impression que c'est de l'opportunisme, c'est là où ça peut faire débat.
Ben, c'est sûr, clairement, en fait, la question se posait pas il y a 10 ans ou avant, ben, on admirait un Kylian qui était hyper médiatisé. C'était en fait 3-4 personnalités qui étaient au devant de la scène, qui nous influençaient clairement dans notre pratique sportive, quoi. Alors, c'est sûr que c'est bon, ça porte débat, oui et non. Je suis assez d'accord avec toi, Dorian, c'est que. D'un côté, c'est chouette parce que ça motive les gens à faire du sport, ça médiatise notre sport et ça met du crédit à notre discipline. Après, c'est sûr que il faut aussi mettre en lumière, et c'est des fois un petit peu la limite, c'est que vous avez des grands champions qui sont clairement pas réseaux sociaux, qui sont pas encadrés aussi, parce que ça, il faut le savoir faire.
On a Vincent Bouillard qui fait pas trop d'interviews, pas trop de posts.
Et qui strato. Et c'est vrai que quelque part, je trouve ça chouette aussi d'admirer les gens pour leur performance et qu'ils vont tirer en fait la performance vers le haut. Mais voilà, donc il faut de la place pour tout le monde. Ça, c'est une question qui se posait pas il y a 10 ans. Avant, on admirait que ceux qui étaient sur les podiums, mais parce que ça n'existait pas. Maintenant, voilà, je pense que c'est chouette que ça motive tout le monde pour faire du sport et faire évoluer notre discipline, quoi.
Dorian, une nuit dans le froid. Est-ce que tu t'y es préparé?
Non, je te rappelle que j'ai fait Koh-Lanta, mon gars. Ah, il y a des nuits dans le froid, sous la pluie.
Il va nous
pas
faire croire que Koh-Lanta, ils sont pas à l'hôtel et tout ça. Non, mais arrête. Dit, on sait, quand les caméras sont éteintes, vous allez dormir.
McDo et
puis Koh-Lanta. Puis Koh-Lanta, t'as la petite cabane avec le petit palmier qui te couvre.
Il y a Denis qui vient de servir à boire et tout ça. Petite soirée. Non, mais vraiment, tu vois, et je sais que. Et voilà, pour l'avoir fait une fois et deux fois, quand j'y suis retourné, je me suis dit pourquoi j'y suis retourné. Dès la première nuit, on l'a vu sur l'épisode, horrible du vent, je me fais piquer à l'œil et tout, je suis fracassé. C'est horrible, mais la douleur est éphémère. Donc quand ça va être dur la nuit, bah, je vais me dire écoute, dans 15 heures c'est fini. Hein. Oui. Et en vrai 15 heures aujourd'hui, t'as vu, c'est une semaine, tu claques des doigts, ça y est, c'est terminé. Donc bah voilà, en vrai je me dis tu pars pour 30 heures, c'est long, mais en vrai 30 heures c'est quoi? C'est super rapide, donc effectivement tu souffres un petit peu, mais un pied devant l'autre et tu finis par arriver.
Est-ce que tu t'es mis des points d'étape? Souvent on parle de Courmayeur comme le point d'étape où on a un temps de référence et on ajuste en fonction de si on accélère, si on freine un peu. T'as un plan de course?
Ouais, j'ai une base de course, mais je te dis, je suis vraiment un peu totalement dans l'inconnu hein, pour ouais. cette course en termes d'expérience, en termes de niveau, en termes de préparation. Pour être honnête, en vrai, tout l'été là, quand j'ai pu m'entraîner, en vrai, j'étais tellement content d'aller m'entraîner en montagne et tout. J'apprécie de plus en plus ce sport parce que j'y suis aussi de plus en plus à l'aise. Et à chaque fois que je m'entraînais, je me disais que c'était pour 2027, tu vois. Et là, en fait, j'ai l'impression que mon UTMB 2026, ça va être un entraînement grandeur nature. Donc voilà, je vais partir sur les alentours de 28 heures de course. Forcément, j'ai un plan de course, mais je vais même pas regarder en fait les temps de passage et je vais juste le faire à la sensation. Et sur les grands ravitaux, notamment à Courmayeur, peut-être que je dirais par rapport à mes 28 heures, je suis comment. Ouais. Mais j'ai pas envie de me dire, ok, donc là, je dois le faire en 1h52 parce que si je suis bien, et bah, j'irai plus vite. Et si je vois que c'est vraiment trop dur, j'irai pas me foutre dans le rouge pour péter en l'air. Donc ça va être plus être au RPE, donc ressenti pendant l'effort. Aujourd'hui, je pense que c'est intéressant pour moi de faire cette UTMB.
C'est ce que disait François Daen, justement. Faut pas regarder la montre, faut exactement, pas regarder ouais. la vitesse, faut y aller à la sensation ouais. et se faire confiance.
Bah, surtout.
Après, François Daen, il dit ça, mais il est devant. Donc, il regarde pas la montre, mais t'inquiète, tout le monde la regarde pour lui. Hein.
Mais c'est vrai que Dorian, qui vient de la route, quand tu viens de la route et que tu bascules comme ça sur de l'ultra, tu dois plus regarder tout tes temps au kilo, tes allures et tout, sinon tu pètes un câble. Si ta montre, elle lab tous les kilomètres, comme sur la route, là, t'en peux plus. Tu vas voir 7-15 au kilo,
8-30.
À 8-30, tu vas te dire non, mais c'est pas possible. Donc, non, c'est sûr, c'est un autre effort. C'est totalement différent. Ouais.
Ben, génial, merci à vous. Merci pour ces précieux conseils. Moi, j'ai une dernière question. Ah. La création de contenu, ça permet aussi de créer ce genre de village. Vous êtes des athlètes hors normes. Il y a aussi un marathon médiatique pour chacun d'entre vous, à Nice, Candice, Dorian. Quand on voit ce village se prospérer et voir qu'il y a des happenings souvent, qu'il y a des gens qui viennent prendre des photos, etc. Et ben on se rend compte qu'en fait ce qu'on fait, ben, ça a un impact réel. Quand Aline Rousset gagne le GR20 avec un record, et ben il y a des gens qui viennent vous voir ici. Et vous c'est pareil.
Et
je lance la patate chaude. Mais quand on se rend compte que ce qu'on fait c'est réel, ben, ça donne un impact et une raison à ce qu'on fait au final.
Ouais, et puis ça fait forcément plaisir parce que un bravo sur les réseaux c'est cool,
c'est
mais
un
bravo en réel, les gens qui viennent nous voir et qui nous disent bravo pour ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, on peut faire une photo, mes enfants t'adorent, tu m'as donné envie de courir, etc. Forcément que ça fait plaisir et que ça donne envie de continuer. Aujourd'hui, on le voit, enfin, voilà, tout a explosé. Aujourd'hui, RMC Running
a explosé
aussi,
grâce à toi aussi.
Sur le trail, et voilà, vous. Voilà, on fait des podcasts, les athlètes, les créateurs de contenu.
Mais c'est un passage obligé. Hein.
Ça fait partie du job et en vrai, je pense que tu peux pas passer à côté, puisqu'en vrai, sinon, tu t'essayes pas de communiquer si derrière tu veux pas communiquer. Ceux qui disent ah j'aime pas trop quand on me prend en photo et tout, bah, arrête de poster sur les réseaux et tu verras plus personne te prendra en photo quoi. Donc ça permet aussi de voir si on est toujours dans l'actualité. Ça permet un peu indirectement de jauger.
Tu jauges ta cote de popularité. Ouais.
Tu vois si tout le monde s'en fout ou si il y en a qui aiment bien. Donc non, moi j'adore voir les gens et j'aime bien les rencontrer en vrai. Et quand ils viennent me voir, je suis super content.
Après, mais, ça, ouais, bien sûr. Et quand on voit
Dodo était de toutes les soirées que j'ai faites, je tiens à le dire. où on m'a invité, quel menteur.
Quand on voit un Clem qui court, justement, qui fait un documentaire, qui fait carton, ouais. Plus de 500 000 vues sur YouTube en l'espace de 2 jours.
Mais là, lui, faut pas qu'il débarque. Hein. Ouais, faut pas qu'il se montre trop. Hein. Faut qu'il reste caché. Parce...
Il est arrivé hier au village, puis il sortait un t-shirt, et puis c'était la folie. Ouais. C'était littéralement la folie. Et puis encore, bravo à vous. Merde, j'ai envie de dire, Dorian.
Bon courage
pour cette UTMB, se sent mal. Merci Candice. Merci Anis pour ton expérience, je le répète.
Et bravo pour ta carrière.
On le rappelle, donc t'as mis entre parenthèses ta carrière professionnelle. Tu as une belle petite famille.
Ouais, exactement.
Vétérinaire.
Oui.
Également. Donc voilà. Bravo et merci. Puis bonne suite de vie.
Merci.
On viendra te demander des conseils quand on montera sur, sur trail, on en aura bien besoin.
Ah oui, première. Moi, je vais sur la route.
Ça va te donner envie toute cette semaine,
ouais, tu verras. C'est vrai, surtout quand je vais t'accompagner l'année prochaine.
Oui.
Attention, je tiens l'as. Merci à vous, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le podcast également sur le YouTube RMC Running pour voir ce fabuleux plateau qu'on a monté ici.
On est bien.
À Chamonix, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les plateformes d'écoute digitale, toujours plus nombreux à nous suivre sur Instagram et Strava. Merci à vous, ça nous aide à monter ce genre d'opération ici à l'OKA UTMB Mont-Blanc. Et pour terminer, toujours le même conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.